pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
On s'en doutait, mais pas à ce point. On nous avait dit que la mission première de l'école consistait à réduire les inégalités sociales, c'est-à-dire à donner une chance d'apprendre et de réussir à tous les enfants, quel que soit le milieu familial dont ils viennent, quel que soit leur parcours. On voyait bien, c'est vrai, que ce n'était pas toujours ça. Mais quelques exemples, ci ou là, de réussites fulgurantes, quelques héros et la volonté d'y croire, nous maintenaient dans l'illusion. En septembre de cette année, le Conseil national d'évaluation du système scolaire, le CNESCO, a publié un rapport sur cette question. 22 équipes de chercheurs français et étrangers, des sociologues, des économistes, des didacticiens, des psychologues, ont été mobilisés pour mesurer de manière précise l'ampleur et les formes réelles des inégalités sociales et migratoires. Ce qui en ressort, je cite le rapport, c'est que non seulement l'école hérite des inégalités familiales de départ, mais produit en son sein, à chaque étape de la scolarité, des inégalités sociales de nature différente qui se cumulent et se renforcent. Ainsi, l'école française est devenue, tout simplement, la plus inégalitaire de l'OCDE, en gros des pays développés. D'après le rapport du CNESCO, les inégalités sont de toutes sortes. Inégalité de traitement dans les ressources d'apprentissage, inégalité dans les résultats scolaires, inégalité sociale dans les orientations, dans les diplômes et même dans le rendement des diplômes sur le marché du travail. Ce rapport ne manque pas d'éclairer les causes à défaut de proposer des remèdes. Elles ne sont ni à chercher dans l'enseignement privé, comme il est souvent dit, ni dans la soi-disant démission de certains parents ou encore dans la crise économique. Si l'on en croit les chercheurs, l'absence de mixité sociale dans des établissements véritablement ségrégés serait essentiellement responsable de la catastrophe. Les élèves des établissements les plus défavorisés, par exemple, en fin de troisième, ne maîtrisent que 35% des compétences attendues en français, contre 80% pour les élèves scolarisés dans un contexte socialement privilégié. La lutte en faveur de la mixité, conclut Le Monde qui rend compte du rapport, reste le grand absent des politiques scolaires depuis 30 ans. C'est une piste de réflexion que je vous propose d'avoir à l'esprit en écoutant les trois histoires qui suivent, trois histoires de violence à l'école, trois formes d'agression auxquelles les enfants se livrent ou sont exposés et qui sont racontées par Judith Chétrit jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, moi, j'ai vécu une situation de harcèlement, pas du côté harcelé, mais plutôt du côté harceleur. C'est une situation qui s'est passée lors des années, de mes années collège, donc 5e, 4e, je dirais, environ, même 6e, c'était présent déjà. Dans un établissement d'une taille moyenne, quoi, 500 collégiens, il me semble, à peu près, dans une ville du Gers, la ville de Auch, où il y avait un garçon qui était plutôt seul, quoi, qui restait seul et qui était souvent harcelé. Alors, c'était un jeune qui était plus rond que la moyenne, je dirais pas obèse, mais qui était plus gros que la moyenne, qui avait des lunettes. Alors je sais pas si c'est une cause ou une raison de harcèlement, mais en tout cas c'était le cas. Et en fait, il n'y avait pas un nombre précis de personnes qui allaient l'embêter ciblé. De souvenir, il vivait des remarques et des insultes de la part de plusieurs personnes. Mais plusieurs personnes, ça pouvait être un groupe d'un côté, puis deux, trois personnes de notre côté à notre moment. Puis sinon, c'était aussi l'ignorance de tous les autres aussi. J'ai jamais vu personne aller le soutenir, le prendre sa défense. C'était peut-être ça aussi qui était dur pour lui. Et je réalisais pas à quel point ça pouvait avoir des conséquences. Mes potes, on était trois. Mes amis étaient plutôt leaders, moi j'étais un peu plutôt suiveur parce que physiquement un peu plus faible et je me sentais un peu obligé d'aller avec eux, de participer à ça pour être tranquille, quoi. Puis c'est vrai que malgré que je me sentais obligé de participer à ça, ça n'empêche le fait que quand je le faisais, je me sentais puissant, je me sentais supérieur à quelqu'un d'autre. Je me souviens d'un semblant de bagarre où, après une moquerie, après une énième moquerie ou une remarque, il essayait de se défendre. Il réagissait, il essayait de nous rentrer dedans. Enfin, à chaque fois, c'était des insultes. « Va te faire foutre, casse-toi, connard. » Et mes potes qui étaient assez costauds l'ont poussé, ils lui ont dit « Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu veux ?» Voilà. Et du coup, ça s'est arrêté parce qu'en le poussant, au bout d'un moment, il est parti, quoi. Et ça n'était presque jouissif pour nous parce qu'on voyait vraiment qu'on le touchait, que ce qu'on faisait avait un impact sur lui. Ensuite, je me rappelle de situations aussi où devant l'établissement, il se faisait embêter jusqu'à ce que son père arrive le chercher et que son père sorte de la voiture furieux. Et en fait, rien que ça aussi, ça nous faisait rire, donc ça rajoutait en fait dans le phénomène, quoi. Aucun moment, j'ai réalisé que c'était une situation de harcèlement. Je pense que je savais même pas ce que c'était le harcèlement. Personne n'était là pour nous en parler, pour poser des mots sur ce qui se passait, pour stopper ça. Donc, tant qu'il n'y avait pas de barrière, les choses continuaient. Je me rappelle des périodes où il n'était pas au collège, on ne le voyait pas, puis il revenait, puis on ne le revoyait pas, puis il revenait. Puis un jour, il n'était plus là, mais il n'est jamais revenu, quoi. Quelques années plus tard, cette personne, je l'ai revue. Tout simplement dans un club de sport, un club de boxe pieds-poings, où il a débarqué un jour, je m'en rappelle très bien, je le vois arriver le long du couloir qui amenait jusqu'à la salle, et quand je l'ai vu, il y a tout ça qui est remonté, donc j'ai repensé à tout ça. Bon, j'avais grandi, j'avais 21 ans à peu près, donc j'avais évolué dans ma tête un peu aussi, et dans ma tête j'avais aussi un peu en tête de me rattraper, quoi, sur tout ça, un peu pour moi, pour ma conscience, quoi. Quand il est arrivé, il a été accueilli comme tout le monde et comme n'importe qui, bien sûr. Son physique n'avait pas changé, donc je disais qu'il était plutôt enrobé par rapport à la moyenne, c'était toujours le cas. C'est vrai que pour la boxe pied-point, je me suis dit comment il va faire, et là j'ai bien pris une claque dans la gueule parce que je me suis rendu compte qu'il pouvait faire tout aussi bien que n'importe qui, et même mieux en fait. Un jour, on s'est retrouvé à aller boire un verre après un entraînement, et donc j'en ai profité pour un peu discuter avec lui sur ses années collège, en lui disant « oui, tu te souviens, on était au collège ensemble ». Il m'a dit « oui, je me souviens très bien », avec dans l'intonation et son regard comme une réprimande, ou pas une réprimande, mais... Je me souviens très bien, et ça voulait dire je me souviens très bien de tout, quoi. C'était pas une période de sa vie qu'il aimait, qu'il appréciait trop et qu'il aimait pas trop non plus en parler, donc voilà. Et aussi, lui m'a dit que voilà, il avait pas été rescolarisé derrière, qu'il n'a pas été dans un établissement, et qu'il a passé de longues périodes chez lui, quoi. Il faisait rien, il était toujours chez ses parents et il avait pas trop d'avenir, pas trop de... Ni de base, en fait, ni de socle, de formation, d'apprentissage pour envisager, voilà, de s'engager dans la vie professionnelle ou de s'émanciper. Donc c'est à ce moment-là que moi, ça m'a le plus choqué, où j'ai pris un retour de pédale, quoi, où je me suis dit... Ah ouais, ce qu'on a fait au collège, ça a eu tous ces effets-là. Ça veut dire qu'une situation qui s'est passée au collège, à 21 ans, il en souffre encore. Quand je l'ai revu au club, j'avais déjà commencé ma formation d'éducateur spécialisé. Je ne sais pas si c'était un critère qui a fait que je me redirige vers le milieu du domaine du social, médico-social. Par contre, du coup, quand je l'ai revu, oui, c'est un sujet sur lequel j'ai réfléchi dans le cadre de mon travail à l'association Contact. J'interviens dans les établissements scolaires et aussi d'éducation populaire, donc pour la prévention de l'homophobie et du harcèlement. Comme je dis à chaque fois, auprès des jeunes, ils ne vont pas nous choquer, ils ne vont pas nous vexer. Voilà, on est vraiment prêts là à parler de tout et à laisser ouvert la parole. Et ensuite... Nous, à la fin, ce qu'on fait quand on intervient, c'est qu'on témoigne aussi de nos situations. Alors moi, voilà, ce témoignage, je le fais pratiquement à chaque fois sur le harcèlement. Et c'est vrai que c'est un moment aussi où les jeunes, ils peuvent voir que Mais ça arrive à tout le monde d'être dans une position de harceleur. Comme je leur dis, j'ai pas l'impression d'avoir été un mauvais garçon quand j'étais jeune, j'ai pas l'impression d'être une mauvaise personne maintenant. Mais des fois, on fait des choses dont on ne se rend pas compte, mais il est toujours à temps de mettre des mots dessus, de réaliser, d'essayer de réparer.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Evelyne Barré, j'ai 59 ans aujourd'hui et j'ai été enseignante jusqu'en mars 2013. La cassure s'est faite le 18 septembre 2012. J'ai essayé de reprendre et en mars 2013, j'ai su que je ne pourrais plus jamais rentrer dans une classe. Donc le 18 septembre 2012, je suis prof de maths sciences au lycée professionnel de l'Acheléen, à Amiens. C'était pour moi une rentrée particulièrement difficile parce que j'avais mon ami qui avait un cancer de la prostate. Bon, un cancer de la prostate, c'est pas grave, mais pour moi, c'était grave à l'époque. Donc rentrée difficile et classe difficile. C'était une classe que j'avais l'année d'avant, que j'avais en groupe. Donc, il s'était juré d'avoir la peau des profs. Voilà, il s'était décidé que comme ça. Et les profs en général, et moi en particulier. Parce que j'avais décidé de pas les lâcher, quoi. Bon, et donc, à la rentrée, le premier cours, ça a été une catastrophe. Vraiment un bordel, mais comme j'ai rarement eu dans une classe. Et donc, bon, ça, c'était classe entière. Et les heures de sciences sont en groupe. Donc, j'avais profité la semaine d'après des heures de sciences pour calmement remettre un peu les pendules à l'heure. Donc bien, ça s'était bien passé, et donc le 18 septembre, les élèves étaient très peu nombreux, beaucoup d'absents, et des bons élèves absents, c'était bizarre. Mais alors, j'ai fait une heure de cours extraordinaire, tous ceux qui étaient là avaient leur cahier, ils étaient tous très sages, ils écoutaient, ils étaient attentifs, mais le cours le plus extraordinaire que j'avais fait depuis des années. Donc c'était ATP, une grande pièce, ils étaient dans le fond de la salle. Et donc moi j'étais très occupée, et à un moment un élève me dit « on tape à la porte ». Oh, je dis « c'en est un qui est perdu, c'est pas grave, bon ». Puis ils insistent, on tape à la porte. Et d'habitude je n'y vais pas, je dis « entrez » et je n'y vais pas. Et là je sais pas pourquoi je suis allée. Je suis allée, j'ai ouvert, et il y avait quelqu'un, un jeune homme, derrière la porte, avec une bombe lacrymo, cagoulé, bombe lacrymo, il m'en a mis plein la figure. En fait, il avait un jogging à cagoule, refermé avec le cordon, et la bombe lacrymogène devant son visage. Donc, déjà, je l'ai vu très 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 peu de temps, puisqu'il m'a envoyé tout de suite la bombe, et non seulement très peu de temps, mais je ne voyais rien. Je ne savais pas où j'étais, tout ce que je savais, c'est que je criais au secours et que j'étais complètement affolée. Et qu'en moi-même, je trouvais que c'était pas bien qu'un adulte s'affole, voyez. Bon, voilà. Et bon, on m'a emmenée à l'hôpital, j'ai été en arrêt de travail tout de suite. Le recteur m'a appelée le soir même. Je lui ai demandé de me rappeler le lendemain, je n'étais pas en état de parler. Donc il m'a rappelé le lendemain et il m'a dit une phrase dont je me souviendrai toute ma vie. Retapez-vous bien pour de nouveau affronter le groupe classe. J'étais enseignante, moi je n'étais pas là pour affronter un groupe classe. Je suis retournée au lycée le jour même et les professeurs étaient dans la salle des réunions. Et ils avaient exercé leur droit de retrait. Ça n'est pas une grève, c'est un droit de retrait. Et donc, ils ne travaillaient plus et ils discutaient sur leurs conditions de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce lycée, il y avait déjà eu plusieurs agressions, entre autres l'agression de la dame qui est à l'accueil, qui s'était fait agresser par des élèves, des agressions d'élèves entre eux. Le lycée allait mal à l'époque. En fait, celui qui a fait ça connaissait très très bien l'établissement parce que il savait qu'il pouvait s'échapper. C'était pile à l'heure, à une minute près, c'était la sonnerie. Et quand ça sonne, les élèves sortent des classes. Donc j'ai porté plainte et il y a une enquête de police. L'enquête a duré, je pense, 1 an et demi à peu près. Et en fait, au moment du jugement, moi j'étais incapable d'identifier la personne, j'ai pu identifier le vêtement, mais il y a eu non-lieu. Je reste persuadée que cette classe avait diligenté un gamin pour attaquer un prof, quoi. Je pense que ça a été un peu un jeu. Ils sont pas bien rendus compte de ce qu'ils faisaient. Dans une agression comme ça, quand c'est par hasard, c'est par hasard. Mais quand on choisit d'agresser quelqu'un, c'est que cette personne, quelque part, a fait une erreur. Quelle erreur, je ne sais pas. Peut-être que, bon, vu les problèmes de santé de mon compagnon, j'étais un peu en état de faiblesse, en état de fatigue. Peut-être que par rapport à mon métier, j'avais plus la niaque que j'avais. Ça faisait 32 ans que j'étais enseignante. Je pense que c'est un métier qui est passionnant, hein. Moi, je ne l'ai pas fait 35 ans par hasard, mais qui est épuisant aussi. Donc, quand on arrive à une cinquantaine d'années, on n'a plus l'énergie qu'on avait. On n'est plus aussi proche des élèves, il y a un décalage. Et je ne l'ai pas vu. Et je pense que c'est pour ça que c'est moi et pas quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas plus mal que ce soit moi, parce que si ça avait été un jeune ou une jeune collègue, c'était une carrière fichue. Donc, 18 septembre, arrêt de travail. Moi, je ne voulais pas rester en arrêt de travail. Donc, j'ai demandé un congé formation. Et un poste s'est libéré juste à côté de chez moi. Poste que je demandais depuis des années. Et coup de chance, il s'est libéré fin janvier. Donc, j'étais très contente de rentrer dans ce lycée. Et donc, j'ai repris. La fleur au fusil, très contente. Un beau lycée, un petit lycée. Et ma première heure de cours, ça a été épouvantable. J'avais les genoux qui s'entrechoquaient. J'arrivais pas à respirer. Une angoisse épouvantable. Bon, j'avais la bouteille, hein, donc je crois que les élèves ne s'en sont pas vraiment rendus compte. J'ai tenu le coup toute la journée. Mais le lendemain, je suis retournée au lycée. Je suis retournée pendant 15 jours. Je ne sais pas très bien combien de temps ça s'est passé. Et un jour, j'ai failli baffer un élève. Puis pas un méchant bougre, hein, un gentil gamin un peu énervé. Enfin, vraiment. J'ai dit, il faut que j'arrête. Je peux pas y retourner, je peux pas, parce que je vais baffer un élève. Et c'est pas bien, enfin, c'est pas possible. Et puis ça va me retomber sur la tête, quoi. C'était une remise en question totale. C'était toute ma carrière, là. Enfin, surtout les 10 dernières années. Je pense que je payais 10 dernières années de fatigue où je faisais moins bien mon travail. Pour moi, moins bien mon travail. Et quand je dis moins bien mon travail, ça voulait pas dire que j'arrivais en ayant bu ou que... Mais ça voulait dire que j'y croyais moins. Voilà.
France Culture, les pieds sur terre.
Depuis 2015, je suis animateur dans les écoles. Je travaille du maternel au CM2, donc dans les temps périscolaires, et pendant les temps de vacances sur les centres de loisirs. J'ai commencé ma carrière d'animateur du coup à Évry. Donc le fief d'Emmanuel Valls, une ville assez populaire, avec une assez grosse mixité sociale. Donc beaucoup de populations se côtoient, beaucoup se mélangent aussi. C'est normal de voir un asiatique, un noir, un arabe, c'est tout à fait normal. Et je suis resté un peu plus d'un an à Évry. J'ai eu une opportunité dans la ville voisine qui est Bondouf. Et là, changement de décor. La ville est beaucoup moins populaire, beaucoup moins mixte. Je suis le seul animateur noir avec des origines africaines dans la ville de Bondouf. Les autres, ce sont des Antillais. Je suis avec des enfants qui vont de 6 à 10 ans. Dans un premier temps. Et les premières remarques que j'ai pu avoir dès mes premières jours là-bas, « Oh, t'es marron, enfin, t'es noir, est-ce que t'es français ?»« Ah, oui, je suis français, je suis né ici, il y a ton copain aussi qui est noir, il est français. »« Non, mais comme t'es adulte, je pensais pas que tu venais d'ici. » Et c'est une remarque qu'on m'a jamais faite auparavant. Donc ça commençait comme ça. Ça revenait souvent qu'on me demande si j'étais français, ah t'es marron, mais Est-ce que ça se nettoie? C'est drôle parce que ça sort de la bouche d'enfant, mais ça cumule. Et l'un des points critiques sur les remarques, c'est ça n'a pas été moi directement. Ça a été un enfant, du coup lui aussi noir, qui un jour passe à côté de moi, m'attrape la main et me dit à ses copains, regardez, Davy, il est aussi noir que moi, et lui aussi il est noir diarrhée. Il est pas noir chocolat, il est pas noir, il est noir diarrhée. Et comme j'étais de passage en fait dans la salle, je demande qu'est-ce qui se passe et ses copains me répondent, ah oui, on se moque de lui parce qu'il est noir, noir, noir caca, noir diarrhée. Et du coup, j'explique aux enfants que ça se fait pas, qu'il faut pas le faire, parce que c'est assez grave. Et je prends le petit et je demande au petit pourquoi tu t'es comparé à moi. Et le gamin qui me répond parce que c'est nul d'être noir. Je dis ah ouais, d'accord. Donc, comme j'étais en train de travailler sur le moment, je ne pouvais pas rester avec lui. Mais je suis revenu là-dessus 2 jours après avec lui, en lui expliquant qu'il n'avait pas à avoir honte d'être noir ou quoi que ce soit. Et que si on lui disait une chose pareille à nouveau, il fallait venir me voir. Le souci, c'est que j'en ai pas parlé à mon équipe. Parce que c'est un sujet très délicat. Et j'ai pas su quoi faire sur le moment. Mais ça m'a marqué. Je sais pas, enfin, je me demande ce qui se passe chez ces enfants-là pour qu'ils puissent arriver à ce genre de propos-là, en fait. Parce que l'enfant, par exemple, qui m'a demandé si j'étais pas français, il m'a expliqué derrière qu'il n'était pas raciste, et en me disant que sa famille, son oncle, ses parents, ils insultent les Arabes, ils insultent les Noirs, à tout va et compagnie. Et ça choque. Donc, quelques mois après, j'ai changé d'école. Que j'ai été promu animateur permanent dans une autre école, donc du coup j'ai changé d'école avec d'autres collègues. Certaines remarques ont recommencé, parce que le boulot était à reprendre à zéro. Je sais que les enfants, ils ne le pensent pas, parce que c'est de la maladresse, à la limite de l'ignorance. Par contre, le jour où les limites ont été dépassées, c'est lorsqu'un adulte lui-même a eu une remarque déplacée à l'égard de ma couleur de peau. C'était lorsqu'on travaillait un soir sur un temps périscolaire avec des maternelles et qu'on devait ramener ces maternelles sur l'école élémentaire, car les écoles sont séparées. Et on devait calmer les enfants pour qu'ils se mettent en rang et ainsi de suite. Et ma collègue a l'idée de jouer de la musique. Elle n'était pas très douée, donc j'ai lui demandé de me passer les tam-tams pour prendre la relève. Et c'est là que mon deuxième collègue qui était avec nous, un jeune de 19 ans, passe en disant « Ouais, c'est bon, le négro va le faire ». Donc, silence, surprise, mon regard se fiche sur lui, mais les enfants sont en train de nous regarder, de nous écouter, donc je ne peux pas réagir trop vertement. Donc, je lui dis que ça ne se fait pas, je lui demande s'il est vraiment sérieux quand il dit ce genre de choses, et lui, il n'a pas de problème, il dit oui, négro, ou si tu veux, renois. Mais c'est pas la même chose en fait, ces deux mots ne sont pas les mêmes du tout, et je lui explique qu'il ne faut pas redire ça. Du coup, devant les enfants, qui sont très petits, qui nous voient nous disputer, et c'est pas une image habituelle pour eux. Quand ça vient de la bouche d'un adulte, devant des enfants qui écoutent, qui analysent, qui vont comprendre les choses, c'est déjà autre chose. Parce que, un adulte est censé savoir ce que ce genre de comportement peut induire, ce que ce genre de mots peuvent faire. Que je puisse entendre ça sur mon lieu de travail en 2016, j'ai trouvé ça juste fou. Quand un blanc va m'appeler négro ou nègre, ça renvoie à une histoire douloureuse, même si je ne l'ai pas subi moi-même. Toute une histoire de persécution, d'esclavage, de discrimination, ça m'envoie un sentiment de supériorité et comment dire, de mépris qui est très puissant, qui est insupportable sur le moment à vivre. Quand c'est un autre noir qui l'utilise, c'est pas la même chose du tout, parce qu'on est au même niveau. On sait pourquoi on en parle, c'est codifié en fait. Et quand c'est un blanc qui utilise, non, là c'est une limite qui est franchie. Je rentre chez moi avec beaucoup, beaucoup de colère. Et je rumine, les mots, ils se martèlent dans ma tête. Le soir même, où j'envoie un message à mon référent en disant qu'il y a eu un problème la veille, parce qu'il n'était pas là, et qu'il faut qu'on en parle demain, le lendemain en réunion. Et il a dit, ok, pas de problème. Et le lendemain matin, j'arrive au boulot avec la boule au ventre, j'ai peur. Je suis pas serein, même en voyant ce collègue-là, il me dit bonjour, je suis pas serein parce qu'il a pas encore compris qu'il y a un problème. j'avais peur de la réaction de mes collègues qui comprennent pas, que ça remette ma place en cause. J'avais peur de beaucoup de choses. Et là, la réunion arrive. Ah, il est 13h20, on a 10 minutes pour faire un débrief de la journée. Et on fait le débrief. À la fin, il me reste à peu près 3 minutes pour me parler. J'explique en quoi les mots m'ont choqué, ce qu'il faudra faire par la suite. Du coup, je préviens le collègue que ça ne doit pas lui arriver, que ce ne sont pas des mots à dire, que ce soit moi ou même ses amis, parce qu'il me répond qu'il le dit à ses amis sans problème. Mais je note sur le moment que quand il l'a dit ça, il s'est pas rendu compte de l'impact que pouvait avoir son mot. Il s'est pas rendu compte. Mais derrière, ça s'arrange puisqu'il s'excuse. La journée se déroule encore et le soir même, il s'excuse encore. Il était vraiment navré. Et j'ai remarqué qu'après la réunion, après l'incident en question, on m'a rapporté beaucoup plus de cas où un enfant avait des propos très maladroits envers des enfants racisés, ce qui n'arrivait pas avant. Et au niveau de mon comportement, j'en parle toujours autant. Mais beaucoup plus librement. Dès que c'est possible, je fais de la prévention aux enfants pour essayer de limiter ces phénomènes parce que la ville est petite, les enfants ne voient pas grand monde, donc ça peut arriver qu'ils soient étonnés, qu'ils aient des remarques. Ça arrive encore aujourd'hui. Et j'essaie de faire un travail pour que ça n'arrive pas ou que ça arrive moins.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, violence à l'école, un reportage de Judith Chétrit réalisé par Anne Pérez. Merci à Thomas Lacom, à l'association Contact Haute-Garonne, à Evelyne Barré et à David Maouété. Des commentaires, des réactions, des partages, des témoignages. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les fameux réseaux sociaux, Facebook et autres, Twitter. On vous y attend nombreux.
Tudo bem, agora diz estar na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Faz o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Você não sabe se vai ou vem. Pouco me importa se o dinheiro é seu. Hey baby, seu cabelo é legal. Moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Você deu mole, então quem faz sou eu.